Notre jardinier de Versailles. Bonjour Alain Baraton.
Il est là. Bonjour Eric. Bonjour à tous.
On parle de la saponaire ce matin. La saponaire n'a plus guère la cote aujourd'hui.
Eh oui, je le regrette. La saponaire officinalis était autrefois une plante très appréciée pour ses petites fleurs roses disposées en bouquets. Les fleurs ne se contentent pas d'être belles. Elles durent tout l'été et dégagent des senteurs mais vraiment délicieuses. La plante est vivace et elle atteint une hauteur de 60 cm. Elle s'adapte à tous les sols. Même les terres pauvres lui conviennent. Alors si elle était autrefois très présente dans les jardins, c'était principalement pour ses propriétés médicinales, propriétés de ses rhizomes et de ses feuilles, supposées soulager ou guérir les problèmes de toux, les rhumatismes, l'acné et autres soucis de peau. La plante, aujourd'hui, est toujours employée en phytothérapie.
La saponaire, donc, d'où vient son nom ?
Du latin saponis, à savoir savon, d'où son appellation d'herbe à savon ou savonnière. La plante contient dans ses feuilles et ses racines quantité de saponines qui ont la particularité de faire mousser l'eau, une eau qui peut alors être utilisée comme shampoing ou comme lessive. Pour être encore plus précis, la saponine émulsionne les graisses, d'où son intérêt pour les lavages délicats, comme la dentelle, votre spécialité, et les vêtements pour les prêtres. C'est pour cette raison qu'elle était cultivée au Moyen-Âge dans tous les jardins de monastères.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il est facile de se procurer de la saponaire pour son jardin ?
Alors, il est possible de trouver des graines dans pratiquement toutes les bonnes jardineries et bien sûr sur Internet. Une fois en place, la plante s'installe et il est alors très facile de la multiplier très facilement par division ou bouturage. En un mot, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour ne plus avoir dans son jardin de saponaire.
Vos conseils et vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter. Olivier qui habite Bordeaux et son citronnier sur sa terrasse présente des taches noires qui se propagent sous les feuilles. En connaissez-vous l'origine et comment puis-je soigner ce citronnier?
Quand ce sont des taches noires et non pas une pellicule, il s'agit soit de virus, soit de champignons. On oublie la fumagine, comme vous savez que c'est une petite pellicule, comme de la suie. Donc soit il s'agit du Mycosferella citri, ils ont toujours des noms un peu particuliers,
c'est ces
champignons.
Latin.
Voilà, tout à fait, qui peut faire quelques dégâts. Dans quel cas, il convient d'évacuer, de couper, en un mot, de supprimer les parties atteintes par le champignon. Il s'agit peut-être aussi du Guignardia citricarpa. Là, c'était un champignon qui a été découvert en 1895 en Australie, vous voyez, qui là encore présente des petites taches brunes sur les feuilles. Là encore, il faut les supprimer et les évacuer. Et il peut encore s'agir d'une bactérie Xanthomonas citri. Et là encore, il faut éliminer les parties contaminées. Donc pour faire simple, déjà, il faut éviter de trop arroser la plante. Deuxièmement, il faut évacuer les feuilles qui sont atteintes. Donc vraiment, on les sort du pot. Hein. Et puis, on essaye de tailler le végétal pour que le soleil véritablement puisse caresser l'intégralité de la ramure. Ce sont des problèmes liés souvent à une atmosphère trop humide, un manque de lumière et parfois même un problème, un stress hydrique. Donc en automne, on réduit l'arrosage. En hiver, on maintient la terre humide sans excès. On reprend les arrosages au printemps et on se rappelle que les agrumes sont des plantes d'extérieur. Quand on les rentre en hiver, pas plus de 14 degrés, sinon la plante n'aime pas.
Ce que vous appelez le stress hydrique, c'est quand on met de l'eau trop froide d'un coup ou quand on met trop d'eau alors que c'était sec avant?
C'est comme si, par exemple, vous buviez 4 litres d'eau le lundi et pas une goutte le mardi.
D'accord.
Vous voyez comment votre organisme peut réagir. La plante, elle aussi, a besoin de continuité. Le stress hydrique, c'est trop d'eau certains jours et pas assez le lendemain.
Bénédicte vous demande, à propos des bambous, quelle est la race de bambou, ou plutôt l'espèce de bambou, qui pousse jusqu'à 1 mètre par jour?
Eh oui, nous en avons parlé
hier.
Tout à fait.
Avec Stéphanie Olivier de La Réunion.
Eh oui, c'est le Philostachys stratis ou Mozo. Vous voyez que le nom est beaucoup plus facile à retenir.
Redites-moi ça dans l'ordre.
Mozo.
Mozo.
Oui. Allez, Philostachys, c'est un bambou extraordinaire qu'effectivement on peut atteindre dans le sud quand il est planté dans d'excellentes conditions, quand la terre lui convient, l'ensoleillement et tout. Il peut atteindre 115 cm par jour. Il atteindra, une fois arrivé à maturité, 25 mètres de hauteur. Attention, le nombre de fois où ici même nous répondent aux questions, j'ai planté quelques bambous, je suis envahi, que faire? Imaginez, mettre un bambou capable d'atteindre 1 mètre par jour, il faut être sûr de son coup.
Catherine a deux gros figuiers de 20 et 30 ans. Ils ont été envahis par du lierre et des ronces, que j'ai supprimés d'ailleurs. Sauf que ces deux gros figuiers ont beaucoup été délaissés. Ils poussent un peu n'importe comment. Qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil, notamment de les tailler?
Oui, une fois que, comme on dit, les grosses gelées ne seront plus à craindre. Donc en mars-avril, on prend le sécateur et on va simplement donner à la plante de l'harmonie. On va supprimer les branches mal positionnées, cassées, trop longues, trop pétiolées. On va ramener ces branches vers le végétal, on va le tasser quelque peu pour donner un petit côté un peu plus condensé, et cela devrait suffire à redonner au figuier une forme esthétique, sachant que la plante résiste vraiment bien aux coups de sécateur.
Adèle et Paul ont abattu un immense épicéa planté en l'an 2000, car trop proche de la maison, disent-ils. Que faut-il faire pour que cette parcelle de 350 mètres carrés qui a été bien labourée soit de nouveau exploitable? Est-ce qu'on peut envisager par exemple un potager?
Enfin, déjà immense, je doute qu'un épicéa puisse devenir immense en 20 ans. C'était un petit commentaire en passant. Oui, on pourra parfaitement installer un potager une fois qu'on aura extrait du sol les racines qui là risquent de créer problème.
Allez, on termine avec un dernier conseil de lecture peut-être.
Oui, un livre que j'ai beaucoup aimé parce que le sujet est rarement traité, Cactées et succulentes. C'est un livre de Yves Delange qui est un botaniste connu. Ses livres sont toujours de grands succès. Enfin, un ouvrage qui permet d'entretenir, de collectionner, de soigner, en un mot, de bien s'occuper des cactées succulentes. Et c'est publié chez Ulmer.
Merci de tous ces conseils, Anna Baraton, et à samedi prochain, 7h51.